RCF.
Bonjour chers auditeurs, la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie de Chambéry vous propose l'émission « Regard sur la Savoie ». Aujourd'hui, nous recevons le professeur Monsieur Lionel Laslaz, maître de conférences, directeur du département géographie et aménagement du territoire à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Monsieur le professeur.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la substance, l'intérêt et l'origine de l'Atlas Savoie-Mont-Blanc. Dans quel contexte a-t-il été conçu? Quel a été le cadre de travail de ce document?
Donc, c'est un atlas qui est paru aux éditions Autrement en juin 2015 et qui a fait l'objet d'une commande par l'Assemblée des Pays de Savoie, qui est devenu depuis le Conseil Savoie-Mont-Blanc, puisqu'elle souhaitait, au même titre que ça avait été préalablement fait pour la région Bretagne ou la région Pays de la Loire, disposer d'un atlas récent sur l'ensemble des deux départements savoyards. Donc on a travaillé à partir du mois d'octobre 2013 pour collecter l'ensemble des données récentes, des chiffres, des informations dont nous avions besoin pour réaliser la centaine de cartes et d'infographies que contient cet atlas. Il y a 36 doubles pages avec des thèmes divers et variés, on y reviendra. Et donc il a fallu dans un premier temps élaborer ces différentes cartes en lien avec le cartographe. Et ensuite, une fois que les cartes ont été pensées et que leur encombrement a été estimé, eh bien on s'est attaché à la rédaction des textes qui, dans ce format des Atlas Monde chez Autrement, sont des textes relativement courts, relativement concis.
Oui, alors justement, quel est le public que vous visez? C'est pour quel lectorat cet atlas?
Alors c'est un atlas qui est destiné principalement au grand public, hein, c'est-à-dire ce n'est pas un ouvrage universitaire au sens strict avec un vocabulaire technique ou avec un jargon spécifique. L'idée c'était vraiment de s'adresser au plus grand nombre, à la fois aux décideurs, hein, aux acteurs du territoire des deux départements et en même temps au grand public cultivé qui souhaite en connaître davantage sur le territoire qu'il y vive, puisque ça s'adresse évidemment aux Savoyards, mais aussi aux visiteurs éventuels, puisque les deux départements sont très touristiques. Ceux qui voudraient connaître davantage ces deux départements sont là aussi incités à le faire par le biais de l'Atlas.
Oui, effectivement, ce genre de document permet d'avoir en main un livre facilement transportable avec évidemment des données tout à fait à jour et qui donne un panorama très complet. Alors justement, quelle est la structure de cet atlas?
Alors effectivement, hein, l'idée, ça n'était pas de refaire un atlas historique, puisqu'il y en a déjà eu sur les deux départements savoyards, mais bien un atlas avec des données récentes, hein, qui sont toutes postérieures à 2010-2011. Il y a cinq parties qui structurent les 36 doubles pages que j'évoquais précédemment avec vous. La première s'appelle « Habiter et vivre la montagne savoyard ». On a ensuite une deuxième partie qui concerne la production, « Produire dans les pays de Savoie ». Tout ce qui va être l'agriculture, l'industrie, l'énergie, etc. Une troisième partie, fréquenter les pays de Savoie, essentiellement autour de l'activité touristique. Une quatrième partie, construire et protéger les patrimoines et les environnements. On reviendra sur cette thématique patrimoniale. Et puis une dernière partie qui s'appelle identité savoyarde en mouvement, où on interroge plusieurs entrées autour de la question des hauts lieux, autour de la question de la place de l'université Savoie-Mont-Blanc, ou encore de la géographie électorale dans les pays de Savoie.
Alors, ce document a également fait l'objet d'une exposition qui, je crois, est disponible. Pourriez-vous nous en parler ?
Alors effectivement, l'Assemblée des Pays de Savoie a souhaité, en parallèle de la sortie de l'Atlas, élaborer, et c'est Savoie Biblio qui en a eu la responsabilité, une exposition sous la forme de tablette numérique, donc qui est très facilement transportable, qui est actuellement jusqu'à fin octobre à la bibliothèque universitaire du Bourget du Lac, et qui est en accès libre, hein, tout visiteur peut venir découvrir cette exposition et consulter les tablettes, avec six thèmes qui sont traités à partir des documents élaborés dans l'Atlas, mais qui complète justement l'Atlas parce qu'il y a des photographies, alors que l'Atlas ne comporte que des infographies et pas de photographies. Il y a également des films, films récents ou films d'archives qui permettent d'avoir une vision, là encore, de ces territoires par le biais de cette exposition. Et donc, toute collectivité territoriale, toute bibliothèque des deux départements qui souhaiterait accueillir l'exposition pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh bien, il suffit d'en faire la demande sur le site de Savoie Biblio, puisqu'à partir de fin octobre, l'exposition sera disponible et elle tournera sur l'ensemble des deux départements.
Très bien, tout ça me paraît fort intéressant. Alors, pour cette émission, nous allons retenir trois thèmes et je vais vous les énumérer et nous allons en parler successivement. Donc, l'Atlas, dans un premier temps, l'Atlas traite des questions qui concernent la vie quotidienne des Savoyards. Deuxième point, outre le tourisme et les stations de sports d'hiver, il faut aussi s'intéresser au système productif industriel et énergétique. Et dans un troisième point, nous pourrons évoquer la dimension patrimoniale. Donc, reprenons le premier point, les questions qui concernent la vie quotidienne des Savoyards.
Oui, alors c'est principalement dans cette première partie hein, que j'ai évoquée avec vous, qu'on a intitulé « Habiter et vivre la montagne savoyarde », où on s'intéresse à la question par exemple de la neige, qui rythme hein, la vie des habitants, et on s'est intéressé également dans cette partie à la question du foncier et de l'immobilier. Il s'agit effectivement d'un thème relativement épineux, parce que les deux départements sont dans une situation de croissance démographique extrêmement rapide, ce qui induit une pression forte sur le foncier, une concurrence entre l'urbanisation et l'activité agricole, notamment, et qui a pour conséquence l'élévation hein, du prix du foncier et de l'immobilier avec des terrains qui s'envolent, et ce dans un contexte où pendant longtemps les documents d'urbanisme ont été assez peu adoptés et généralisés. Alors désormais, pour le 31 mars 2017, les plans locaux d'urbanisme seront obligatoires, donc toutes les communes devront s'y soumettre, et puis les schémas de cohérence territoriales seront aussi à terme généralisées, ce qui permettra sans doute de gérer cette question du foncier et de l'immobilier dans des conditions un petit peu plus satisfaisantes qu'actuellement.
Nous allons poursuivre notre développement et nous allons aborder le second point après la pause musicale. Alors, outre le tourisme et les stations de sports d'hiver, auxquelles j'ai remarqué que vous consacriez trois doubles pages, nous serions intéressés, vous pourriez peut-être développer les systèmes productifs industriels et énergétiques qui sont peut-être moins connus en Savoie. Qu'en est-il exactement de ces activités ?
Oui, effectivement, les Savoies sont connues de l'extérieur principalement hein, autour de cette activité touristique, également autour de la question agricole, hein, auquel on consacre une place importante. Mais ce qui est moins connu, c'est que nos deux départements sont et demeurent des départements industriels, notamment. C'est le cas surtout de la Haute-Savoie, hein, qui est bien au-delà de la moyenne nationale pour ce qui concerne l'emploi salarié dans l'industrie, avec près de 25% des salariés qui travaillent dans ce secteur industriel. Et là aussi, c'est assez peu connu, même si les deux Savoies sont concernées par une pépinière de petites et de moyennes entreprises, quelques grands groupes hein, tout de même de l'industrie, avec une cinquantaine d'entreprises sur les deux départements qui dégagent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Alors, ce qui peut-être caractériser ce paysage industriel des deux départements, outre un certain nombre de grands groupes, c'est effectivement la concentration de petites et moyennes entreprises qui sont spécialisées dans un certain nombre d'activités industrielles. On peut penser notamment aux activités qui gravitent autour de la question des sports de nature et de plein air. Alors, l'un de ces groupements d'entreprises a été labellisé hein, par le ministère. Il s'agit du statut de grappe d'entreprise qui désigne justement des entreprises proches, très connectées, très reliées et qui gravitent autour d'un même système de production. Et il s'appelle Outdoor Sports Valley, donc... ce qui concerne les sports de plein air, on retrouve Millet, Salomon, Fusalp, TSL avec les raquettes par exemple, Quechua, etc. Et il y a 250 entreprises hein, dans le cadre de cette grappe d'entreprises qui sont spécialisées sur l'industrie de la montagne, des loisirs, du outdoor notamment, avec en particulier une relocalisation qui a été très symbolique, hein, celle de Rossignol à Sallanches, qui a réinstallé une de ses installations, une de ses usines qui avait été délocalisée il y a quelques années à Taïwan et qui l'a donc réinstallée à Sallanches pour refabriquer des planches de ski dans nos deux départements.
Oui, ce point a souvent été cité sur les antennes nationales. On a souvent entendu parler de cet exemple qui est tout à fait remarquable, effectivement.
Oui, et puis il y a un autre exemple qui a été largement médiatisé ces dernières années qui est sous l'égide du gouvernement. L'ancienne usine Pechinet qui était aux mains du groupe Rio Tinto Alcan à Saint-Jean-de-Maurienne et qui a été donc reprise par l'allemand Trimet en 2013, là aussi un grand renfort de médiatisation. Donc on évoque hein, également cette entreprise Trimet de Saint-Jean-de-Maurienne autour de la production de l'aluminium qui est un des bastions de l'industrie dans les Savoies. Et puis on peut penser également au pôle de compétitivité, là aussi c'est un label national, il y en a en 71 en France, c'est un label qui a été créé en 2007 et celui qui concerne nos deux départements, c'est Montblanc Industries qui reprend l'ensemble des entreprises spécialisées dans l'activité de décolletage et de mécatronique. Alors la mécatronique, c'est le mariage de trois mots, mécanique, électronique et informatique, où on a là une tradition hein, relativement ancienne et une spécialisation dans cette filière, avec un peu plus de 300 entreprises et 27 000 salariés qui travaillent dans ce secteur industriel, principalement, on le sait, hein, dans la vallée de l'Arve et le Faucigny. Mmh.
Qui d'ailleurs, je crois, sont à la pointe de la technologie, sont des entreprises de très haut niveau.
Alors justement, la reconnaissance du statut de pôle de compétitivité, que l'on retrouve par exemple pour la chimie et la pharmacie lyonnaise, que l'on retrouve pour l'aéronautique et l'aérospatiale à Toulouse, c'est la marque de reconnaissance d'une industrie de très haut niveau, extrêmement élaborée, en pointe, hein, effectivement, qui produit régulièrement des innovations. On en veut d'ailleurs pour preuve les 1500 chercheurs hein, qui travaillent dans le cadre de ce pôle de compétitivité. Alors dans le domaine énergétique, là aussi, hein, les Savoies pèsent à l'échelle nationale. Ce qui est le plus connu d'un point de vue énergétique, c'est la question, bien entendu, de l'hydroélectricité.
Hein, bien
puisque
sûr,
le département de la Savoie comporte 14 barrages parmi les plus importants à l'échelle nationale. Une production hydroélectrique qui est considérable, hein, avec près de 160 centrales sur les deux départements au total qui assurent une production hydroélectrique. Mais ce qui est plus récent, c'est l'apparition d'une forme de spécialisation de nos deux départements dans le solaire, avec l'installation de l'INES, hein, l'Institut National de l'Énergie Solaire, depuis 2005, parce qu'on sait moins, effectivement, ça fait pas partie des clichés, que nos deux départements sont relativement bien ensoleillés et que donc le développement de l'énergie solaire y est plutôt favorable. Et puis, la volonté politique de création d'une filière autour du bois énergie, parce que les possibilités forestières qu'offrent nos deux départements, eh bien, finalement ont été saisis hein, par les décideurs publics avec la création à Rumilly du pôle Excellence Bois Pays de Savoie depuis 2012 et il y a près de 4000 entreprises qui au total sur les deux départements travaillent dans cette filière du bois et de l'énergie. C'est donc assez significatif et c'est un secteur qui est largement en devenir.
Après notre plage musicale, nous abordons le troisième point de cette discussion en nous intéressant à la dimension patrimoniale. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette diversité patrimoniale qui, je crois, est très riche ?
Oui, effectivement, on a essayé de souligner hein, dans le volume qui nous était imparti la grande richesse patrimoniale des deux départements avec une pluralité hein, de formes de patrimoine. On a traité de la question du patrimoine bâti hein, avec l'exemple de Chanaz par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Le patrimoine architectural et bâti est reconnu dans les deux départements avec un outil que l'on appelle les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural urbain. Urbanistique et paysager. Donc certaines sont transformées progressivement en AVAP. Donc les AVAP, c'est le nouveau nom des ZPPAUP. Ce sont les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et donc elles sont au nombre de 7 dans le département de la Savoie et de 5 dans le département de la Haute-Savoie. Donc ça, c'est une forme finalement de reconnaissance hein, et de labellisation, mais aussi de protection de ces patrimoines bâtis. On évoque également un patrimoine bâti qui a longtemps été décrié, mais qui est reconnu aujourd'hui comme le patrimoine bâti, une des formes du patrimoine bâti du XXe siècle. C'est le cas de l'architecture dans les stations de sport d'hiver, notamment de troisième génération, où on évoque le cas d'Avoria et du chalet Lang à Courchevel, hein, entre autres.
Oui, tout à fait, qui donne lieu l'été, je crois, à des visites commentées maintenant.
Exactement, avec derrière une filière hein, économique qui se structure, des visites avec des guides qui permettent aux visiteurs et aux Savoyards eux-mêmes de partir à la découverte hein, de ce patrimoine qui est assez méconnu et qui a été longtemps décrié, mais dans lequel on reconnaît désormais une certaine forme d'audace hein, de ces pionniers de l'architecture dans les stations de troisième génération. Il est aussi question du patrimoine religieux avec les grands monastères hein, qui ont fait l'objet, en fonction des cas de figure, de réhabilitation, de transformation, de formes de valorisation diverses, du patrimoine militaire avec la barrière de l'Essayon en Maurienne,
les forts
exactement.
Oui.
La question également du patrimoine lacustre, hein, qui est un patrimoine sur lequel les enjeux sont extrêmement importants parce que les rives de nos lacs alpins, qu'il s'agisse du Bourget ou d'Annecy, font l'objet évidemment de pressions foncières et urbaines extrêmement importantes. Donc la dimension patrimoniale, elle est aussi discutée parce que il y a des enjeux de développement économique et urbain autour de ces lacs. On parle également de la forêt. Hein, j'ai cité préalablement la valorisation économique qui en était faite à travers la filière bois-énergie, mais la forêt est aussi considéré comme un patrimoine.
Oui, et puis sous la forme du paysage aussi, je pense aussi.
Également, avec la question du paysage, la fermeture des paysages également sous l'effet de la
recolonisation. Oui, je crois que c'est le problème des Bauges, entre autres, il y avait forestière. Ce problème qu'on a identifié ces dernières années.
Oui, voilà, c'est le cas par exemple du massif des Bauges. On évoque également la situation dans le massif du Chablais. Donc plusieurs exemples qui soulignent à quel point hein, cette forêt là aussi hein, fait l'objet d'une forme d'appropriation par les acteurs et éventuellement de logique patrimoniale. Et puis on s'intéresse également à la question de la faune dite sauvage avec l'apparition, notamment le retour des grands prédateurs depuis quelques années et la question des espaces protégés qui ont pour mission principalement de sauvegarder le patrimoine dit naturel. Alors là aussi, une forme de spécificité de nos deux départements, puisque la couverture en espaces protégés est extrêmement élevée. Ils sont de toute nature, les sites classés, les sites inscrits, les réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, le réseau Natura 2000, le parc national de la Vanoise. Hein, donc tout ça mis bout à bout fait que on a 57% du département de la Savoie qui est concernée par ces dispositifs de protection alors que la moyenne nationale est autour de 27%. Hein, donc une richesse d'un point de vue de ces différents outils, ce qui ne manque pas d'ailleurs de soulever un certain nombre de débats et de conflits parce que là encore il y a des enjeux de développement économique que d'aucuns considèrent comme incompatibles avec cette couverture par différents types de mesures de protection.
Alors je crois qu'il y a aussi un patrimoine peut-être moins visible qui est le patrimoine intellectuel avec entre autres la figure de Lamartine ou de George Sand. Lamartine particulièrement puisque nous fêtons le bicentenaire de son voyage de 1817, je crois, sur les bords du lac de Bourget.
Alors exactement, on a souhaité aussi consacrer une double page qu'on a nommée « Les Savoies au fil des souvenirs », qui sont consacrées à un certain nombre de lieux de mémoire. Donc on a consacré une carte au plateau des Glières, avec la dimension mémorielle des combats, et notamment de ceux de 1944. Et également une autre carte, les lieux du patrimoine autour du lac du Bourget, où on a effectivement mentionné et localisé un certain nombre de sites qui ont été l'objet et qui sont encore emprunts du souvenir de Lamartine, les souvenirs de ces différents sites lamartiniens, avec la grotte de Raphaël, avec la colline de Tresserve également, avec la grotte de Lamartine sur la commune de Bourdeaux. Bourdeaux qui est également célèbre pour le passage de George Sand.
Voilà, exactement.
Et puis également les sites palafites qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et qui sont communs à plusieurs lacs alpins, mais qui sont notamment présents dans ce lac du Bourget. Donc ce sont des patrimoines qui, comme vous l'avez mentionné, ne sont pas toujours facilement visibles et identifiables pour les Savoyards et pour les visiteurs. Lamartine est effectivement fréquemment associée au lac du Bourget, mais l'incarnation dans l'espace autour du lac du Bourget de ces différents sites est pas toujours évidente. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai travail dans les années qui viennent de valorisation autour de ces éléments qui relèvent de la littérature, de la culture, pour faire en sorte que effectivement on puisse construire, proposer un certain nombre de prestations, d'itinéraires qui permettent aux visiteurs ou aux habitants de découvrir ces richesses liées encore une fois à l'histoire de la culture dans notre pays.
Oui, tout ça, c'est très intéressant. Je crois me souvenir de la présence d'un bus de Lamartine par David Danger à Tresserve, par exemple. Mais effectivement, on ne sait pas exactement. Enfin, il y a quelques itinéraires, malgré tout. Il se serait promené sur la colline, justement, pour voir le lac en contrebas, etc. Voilà.
Oui, effectivement, il y a déjà des actions patrimoniales qui sont en fait en faveur de ce dispositif. Mais comme il est peut-être moins visible, je dirais, que d'autres, ce patrimoine, eh bien, il y a sans doute matière dans les années qui viennent à essayer de le valoriser encore sous d'autres formes. Un certain nombre d'acteurs de la valorisation patrimoniale et du tourisme s'y emploient. On peut penser notamment à l'action de la FACIM dans le département de la Savoie ou à celle du Conseil général de la Haute-Savoie pour la partie nord des Pays de Savoie.
Très bien. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette prestation. Et puis,
merci à vous.
Nous allons nous quitter en vous souhaitant une bonne journée.
Merci.